Il est évident que tous les systèmes et courants religieux, quels qu'ils soient, croient connaître et comprendre leur Dieu respectif, qu'ils en aient un ou plusieurs. Les facultés de théologie catholique ou protestante ont certes leur valeur, mais sont aussi coupables de l'avoir fabriqué un petit paquet bien ficelé dans lequel le Créateur du ciel et de la terre n'a qu'à bien se tenir et pas trop remuer car on ne lui laisse pas beaucoup d'air pour respirer. C'est ce qui explique, par exemple, pourquoi les églises issues de la Réforme sont légion, au point où une chatte n'y trouverait pas ses petits. Cette diversité de clochers crée une confusion qui est très déroutante pour le novice ou pour celui qui cherche vraiment Dieu. À l'époque de Job, qui est celle des patriarches Abraham et Jacob, les gens possèdent des dieux domestiques sous forme de figurines, qu'ils conservent dans une petite boîte ou enroulés dans un tissu. Ce phénomène d'enfermement de la divinité, qu'il soit matériel ou un concept théorique, date depuis toujours. Preuve en est les croyances des trois amis de Job qui sont venus pour le réconforter et le soutenir dans ses malheurs. D'emblée, il croit pouvoir discerner le problème, prétendant ainsi comprendre ce que le Tout-Puissant veut accomplir dans la vie de leur ami. Par contraste, Job a déjà décrit combien les voies de Dieu sont impénétrables et inaccessibles à l'esprit humain, et il continue à développer ce thème, toujours sur forme poétique, dans le chapitre 28, qui est un intermède au milieu de ses complaintes et qui est regardé comme un hymne à la sagesse. Ayant réduit au silence par chaos ses amis accusateurs, Job est dans un nouvel état d'esprit qui est presque de la sérénité. Le thème du chapitre 28 est la sagesse de Dieu qui ne s'obtient pas par des moyens naturels. En effet, l'homme s'infiltre dans les profondeurs de la terre pour en extraire des pierres et des minerais précieux. Mais la sagesse, bien plus précieuse, ne se trouve pas dans le monde qui nous entoure et n'a pas d'équivalent parmi les trésors terrestres. Dieu seul la possède et la donne à qui le révère. Je commence à lire le chapitre 28. Il existe des lieux d'où l'on extrait l'argent. Il y a des endroits où l'on affine l'or. On sait comment extraire leur fer de la poussière, fondre le minerai pour en tirer le cuivre. On fait reculer les frontières des ténèbres sous terre. On explore les mines. On va chercher des pierres noires dans l'opaque ténèbre. Dans les galeries que l'on perce, à l'endroit où le pied a perdu tout appui, les mineurs se balancent suspendus dans le vide, loin des autres humains. La terre qui nous donne le pain, qui nous nourrit, se voit bouleversée jusqu'en ses profondeurs, tout comme par un feu. C'est dans ces roches qu'on trouve les saphirs et la poussière d'or. L'oiseau de proie ignore quel en est le sentier, et l'œil de l'épervier ne l'a pas repéré. Les plus fiers animaux ne l'ont jamais foulé. Le lion n'y passe pas. On s'attaque au granit. On remue les montagnes jusqu'en leur fondement. Au milieu des rochers, l'homme ouvre des tranchées. Rien de précieux n'échappe à son regard. Il arrête le cours des eaux et amène au grand jour les richesses cachées. Job, chapitre 28, les versets 1 à 11. Job commence par décrire la science et la technologie humaine et toutes les réalisations qu'elles ont permises. Ce passage fournit des informations fascinantes, car vieilles de 6000 ans, concernant les techniques anciennes d'extraction des minerais et pierres précieuses. À cette époque, on utilise des torches et les mineurs travaillent assis sur un siège et dans une corbeille suspendue à une corde. On a retrouvé des documents datant de cette période lointaine qui confirment toutes les données contenues dans ce texte. Selon le livre de la Genèse, le fer en particulier est travaillé depuis le tout début de l'humanité. Dieu a placé des richesses sous terre et à sa surface pour permettre à l'homme de les extraire. Job décrit l'ingéniosité de l'homme capable d'exploiter aussi bien des carrières à l'air libre que de creuser des galeries souterraines profondément dans le sous-sol. L'homme sait donc cultiver la terre, construire, fabriquer toutes sortes d'objets, des bijoux et surtout des armes. Et il a créé une monnaie pour effectuer des échanges commerciaux. Pendant longtemps, comme moyen de paiement, on utilise l'argent, métal, qui est pesé. Plus tard, les billets de banque, qui ne sont jamais qu'une forme de papier, ont une valeur étalonnée sur l'or. Aujourd'hui, ces billets reposent sur rien, comme la planète Terre. Je continue. Mais quant à la sagesse, où peut-on la trouver? Où donc l'intelligence a-t-elle sa demeure? L'homme ne connaît pas quelle en est la valeur. Elle est introuvable au pays des vivants. L'abîme affirme. Elle n'est pas ici. Et l'océan déclare. Elle n'est point chez moi. On ne peut l'acquérir avec de l'or massif. On ne peut l'acheter en pesant de l'argent. Elle ne se compare pas avec de l'or, d'orphyre ou le précieux onyx, ni avec le saphir. Ni l'or, ni le cristal n'ont autant de valeur. On ne les change pas contre un vase d'or fin. Le corail et l'albâtre ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que des perles précieuses. La topaze éthiopienne n'égale pas son prix, et l'or, le plus fin même, n'atteint pas sa valeur. Job, chapitre 28, les versets 12 à 19. Job constate l'habilité et les prouesses technologiques de l'homme avec son incapacité de découvrir la plus grande des richesses, la sagesse qui, tel un mirage, reste inaccessible. On ne peut la trouver ni dans le sous-sol, ni sur la terre, ni dans les océans, et on ne peut l'acheter au marché comme les autres biens de consommation. En affirmant ce caractère impénétrable de la sagesse divine, Job donne en passant un coup de patte à ses trois amis qui, dans leur arrogance, croient pouvoir tout expliquer. Je continue. Mais alors, la sagesse, d'où provient-elle? Et où l'intelligence a-t-elle sa demeure? Elle se cache aux yeux de tous les êtres vivants. Elle se dissimule à l'œil vif des oiseaux. L'abîme et la mort disent, nous avons seulement entendu parler d'elle. Job, chapitre 28, les versets 20 à 22. Job pose une nouvelle fois les deux mêmes questions pour dire à nouveau que nul être vivant ou décédé ne peut découvrir de lui-même la sagesse absolue qui reste obstinément cachée. Celui qui la possède serait capable de comprendre et d'expliquer la mort, qui, plus que tout autre énigme, demeure un mystère insondable. Mais même dans les profondeurs des enfers, on n'a de la sagesse qu'une connaissance très vague. Ceux qui vont dans l'au-delà pourraient nous renseigner sur la mort, mais ils ne peuvent pas revenir. Et contrairement à une idée fort répandue, il leur est impossible de communiquer avec nous, avec les vivants. Les médiums qui invoquent les décédés entrent en contact avec un démon, mais jamais avec le disparu. Le grand magicien Houdini fit pendant longtemps la une des journaux par ses actes de prestidigitation. Avant de mourir, il laissa à sa femme un code grâce auquel, outre-tombe, il s'identifierait avec elle. Après sa mort, plusieurs spirites sont venus trouver son épouse prétendant avoir reçu une communication de son mari. Elle leur demandait alors simplement « Quel est le code ?» Mais aucun ne fut jamais capable de le lui donner. Je continue le texte. Car c'est Dieu seul qui sait le chemin que la sagesse emprunte. Oui, il en connaît la demeure, car son regard parcourt le monde entier, et tout ce qui s'y passe sous le ciel, il le voit. C'est lui qui a fixé la pesanteur du vent, et donné leur mesure à tous les océans. Lorsqu'il a établi une loi pour la pluie et tracé un chemin aux éclairs du tonnerre, c'est alors qu'il l'a vu et en a fait l'éloge. Il a posé les fondements de la sagesse et l'a sondé. Job, chapitre 28, les versets 23 à 27. Job soutient que l'homme ne peut de lui-même accéder à la sagesse absolue. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il ne peut pas comprendre sa situation. Maintenant, il précise que le seul qui puisse répondre aux interrogations concernant la sagesse est celui qui domine sur les forces puissantes de l'univers, le Dieu créateur, parce qu'il connaît parfaitement tous les secrets. Il est à la fois omniscient, il connaît toutes choses et omniprésent, il est partout à la fois, et il est aussi omnipotent, il peut faire comme bon lui semble quand cela lui plaît. En Occident en particulier, et au niveau spirituel, l'athéisme a supplanté la foi. En parallèle, l'homme a abandonné sa quête de la sagesse et de Dieu pour se dévouer à la science et ses applications technologiques afin d'accumuler des richesses. Je finis de lire le chapitre 28. Puis le Tout-Puissant a dit à l'homme, « Révérez le Seigneur, voilà la vraie sagesse, se détourner du mal, voilà l'intelligence. » Job chapitre 28, verset 28. Nous apprenons que la sagesse est un caractère moral. L'homme qui veut s'élever jusqu'à la compréhension de cette sagesse, dont Dieu seul est le détenteur, doit avoir de lui une crainte respectueuse et se détourner du mal. Dans les textes sacrés, et plus particulièrement dans les livres poétiques, la sagesse est identifiée à une sincère révérence et profonde soumission à Dieu que les Écritures qualifient de crainte de l'Éternel. Cette sagesse consiste à vivre selon les règles morales que Dieu a instituées. Je lis deux passages. La clé de la sagesse est de révérer l'Éternel. Ceux qui s'y tiennent ont une saine intelligence. Qui observe ses lois est vraiment avisé. Sois rempli de respect pour Dieu et obéis à ses commandements, car c'est là l'essentiel pour l'homme. En effet, Dieu jugera toute œuvre, même les cachées, les bonnes et les mauvaises. Psaume 111, verset 10, Ecclésiaste 12, les versets 13 et 14. Contrairement à ce que ses trois amis ont prétendu, Job honore l'Éternel et se garde de tout mal, ce que Dieu lui-même a confirmé à deux reprises. Il s'ensuit que Job possède la sagesse et l'intelligence qui sont accessibles à l'homme. D'ailleurs, dans les prochains chapitres, il va prouver qu'il révère véritablement le Tout-Puissant et qu'il n'a commis aucune faute grave. Nous arrivons au chapitre 29 où Job se remémore l'époque bénie qui a précédé son affliction. Par la même occasion, il va nous révéler un trait de caractère fâcheux qui constitue son talon d'Achille, en quelque sorte. Il ne s'agit pas d'une faute spécifique cachée, mais de son orgueil. Il va utiliser les pronoms « je »,« me », »,« moi » 52 fois au dire de ceux qui les ont comptés. Job se réduit à un tout petit paquet enveloppé sur lui-même et il pousse le bouchon un peu trop loin quand il dit « Ma robe et mon turban, c'était ma droiture. » Job chapitre 29, verset 14. Job me fait penser à un petit poème en langue anglaise qui en français dit à peu près ceci. « J'ai organisé une petite fête à moi-même cet après-midi. Nous n'étions que trois. Je, me et moi. Moi, j'ai mangé tous les sandwichs tandis que je buvais le thé. Ce fut aussi moi qui mangea la tarte et qui me suis englouti le gâteau. La roue qui tourne est une loi universelle pour tous, mais pour certains d'entre nous, c'est le pronom personnel qui en est le moyeu. Toute la vie est centrée sur « je, me, moi ». C'est le cas de Job qui jusqu'à présent n'a pas fait état de la moindre contrition, car il se sent coupable de rien. En fait, il ne se reconnaît aucune faute spécifique, ni même le plus petit échec de vie. Ses trois amis n'ont pas été capables de l'aider du tout parce qu'ils sont partis sur une base fausse. Dès le début, ils ont tout faux en croyant que les souffrances de Job ne peuvent provenir que de ses péchés cachés. Piètre consolateur, ils ont malmené leur ami, mais lui a tenu bon. Eliphaz, le premier des trois compères, a utilisé l'approche psychologique de la pensée positive. « Tu vas voir comme tout va bien aller. Tu vas te sentir bien une fois que tu auras tout confessé. » Bildad, le deuxième, a prêché la tradition des anciens, qui enveloppe dans un discours philosophique. Tsophar, le troisième ami, manifeste le dogmatisme religieux de quelqu'un qui connaît tout sur Dieu. Ses passes d'armes finissent par un match nul en queue de poisson et en retour à la case départ. Job seul reste sur le terrain, mais il souffre toujours autant. Job est certes orgueilleux, mais si on le juge en fonction des exigences que Dieu a révélées aux hommes de l'époque des patriarches, il faut quand même admettre que c'est un homme irréprochable. Avant ses malheurs, Job a tout pour être heureux. Il est immensément riche, respecté par tous et occupe une position d'autorité. Au niveau spirituel, c'est un croyant authentique qui a une crainte respectueuse du Tout-Puissant. Il offre des sacrifices pour ses péchés et ceux de ses enfants. Job n'essaie pas de paraître pour ce qu'il n'est pas. Pesé sur la balance divine, il n'est pas qualifié d'hypocrite, mais d'honnête homme, dans tous les sens du mot. Alors pourquoi doit-il souffrir ainsi? En réalité, tout ce qu'il endure est secondaire, et même Satan n'est pas particulièrement important dans ce récit. La raison de cette histoire est l'orgueil de Job, ou plus exactement, son égotisme spirituel, son sens d'être juste en lui-même devant Dieu, ce qui ne peut être que partiellement vrai. Job a donc besoin d'une réprimande, et elle est douloureuse, cependant, quand l'Éternel va enfin se révéler à lui. Il va se montrer un élève modèle qui comprend tout de suite et apprend très vite la leçon qui lui est enseignée. Mais en attendant cette rencontre fatidique et historique, Job a une vue limitée aussi bien de Dieu que de lui-même. La devise de Socrate était « Connais-toi toi-même ». Cette maxime est certes un bon conseil, car comme l'a si bien dit un certain Toulet, « Apprends à te connaître, tu t'aimeras moins ». Et c'est bien ce dont Job a grand besoin. Tous les discours entre Job et ses amis sont écrits en langage poétique. Il en est de même du long monologue de Job. Le chapitre 29 ne fait pas exception, et en plus, il est structuré d'une manière symétrique, un peu comme une flore, où le stigmate du milieu serait entouré par deux rangées de pétales. La première correspond à la description par Job de ses bénédictions passées, et la seconde rangée est constituée par les honneurs qu'on lui rendait. Au centre de son monologue, Job fait état de sa générosité envers ses semblables. Cette partie du discours correspond au stigmate de la flore. Ensuite viennent deux nouvelles rangées de pétales dont Job parle encore une fois de ses bénédictions passées et des honneurs qu'on lui dispensait. Donc, pour commencer, Job passe en revue son bonheur passé avant qu'il ne soit frappé d'une série de malheurs, puis d'une maladie qui dure depuis plusieurs mois. Je commence à lire le chapitre 29. Job prononça un autre discours. « Qui me fera revivre les saisons d'autrefois ? Comment ces jours passés où Dieu veillait sur moi, où il faisait briller sa lampe sur ma tête, et qu'avec sa lumière, j'affrontais les ténèbres. Ah, si j'étais encore au jour de mon automne, de ma vigueur, quand ma demeure jouissait de l'amitié de Dieu, et quand le Tout-Puissant était encore à mes côtés, quand tout autour de moi s'ébattaient mes enfants, quand je baignais mes pieds dans la crème du lait, et quand le roc versait sur moi des torrents d'huile. » Job, chapitre 29, les versets 1 à 6. « Dieu veillait sur moi » résume toute la vie antérieure heureuse de Job. C'est une déclaration touchante. Au cœur de son bonheur passé, Job avait la conviction que Dieu veillait sur lui pour le bénir. Sa détresse actuelle s'explique par le sentiment opposé. Dieu l'a abandonné. Deuxièmement, Job était un homme heureux dans sa famille, et quand il fait allusion à ses enfants, nous entendons le sanglot d'une grande douleur. Les jours de l'automne correspondent à la pleine maturité, la force de l'âge. L'enfance est le printemps, la jeunesse c'est l'été, et l'hiver c'est la vieillesse. Troisièmement, Job était très riche. La crème, le lait et l'huile sont les images classiques de la prospérité. Le roc est le pressoir à olive dont la base est en pierre. Je continue avec la deuxième rangée de pétales de mon illustration. Lorsque je me rendais aux portes de la ville, quand je dressais mon siège sur la place publique, les jeunes me voyaient. et ils se retiraient. Les vieillards se levaient, et ils restaient debout. Les notables arrêtaient leurs propos et se mettaient une main sur la bouche. Les grands baissaient la voix, et ils tenaient leur langue collée à leur palais. Celui qui m'écoutait me déclarait heureux, celui qui me voyait parlait de moi en bien. Job chapitre 29, les versets 7 à 11. Job était un homme universellement respecté. Il habitait la campagne au milieu de vastes propriétés. De là, il se rendait au chef-lieu pour prendre place sur son siège de membre du conseil de la ville. Il faut savoir que chaque ville, de quelque importance, possède un conseil de notables qui siège sur la place publique, près de l'entrée principale, et qui rend la justice. Job était respecté non seulement par les jeunes qui s'écartaient de son chemin, mais aussi par les hauts dignitaires qui reconnaissaient et appréciaient sa grande sagesse. Je continue. « Car je sauvais le pauvre qui appelait à l'aide, ainsi que l'orphelin privé de tout secours. Ceux qui allaient mourir me bénissaient, et je mettais la joie dans le cœur de la veuve. J'endossais la justice, c'était mon vêtement, ma robe et mon turban, c'était ma droiture. J'étais l'œil de l'aveugle et les pieds du boiteux, et j'étais comme un père pour ceux qui étaient pauvres. J'examinais à fond le cas des inconnus. Je brisais les mâchoires de l'homme violent, et je lui arrachais la proie d'entre les dents. » Job chapitre 29, versets 12 à 17. Dans l'illustration de la fleur, cette partie du monologue de Job représente le stigmate, le cœur du discours. Job fait ici valoir qu'il se souciait du bien-être des plus démunis. Il répond aussi aux accusations du contraire que lui ont portées ses amis. Dans toutes ses relations sociales, la droiture lui servait de manteau et la justice de turban. Il ressort presque de ce verset que la justice s'incarnait en Job. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Je continue avec, à nouveau, une première rangée de pétales. Je me disais alors, je mourrai dans mon nid, j'aurai des jours nombreux comme le phénix, la source de l'eau vive baignera ma racine, la rosée passera la nuit sur ma ramure, ma gloire auprès de moi se renouvellera et, dans ma main, mon arc rajeunira. Job chapitre 29, les versets 18 à 20. Au vu de sa conduite irréprochable, Job était en droit de s'attendre à une prospérité durable. Certain que la bénédiction de Dieu l'accompagnerait jusqu'à ce que, repu d'années, il ait une belle mort. On constate ici que, tout comme ses trois amis, Job considère Dieu comme un tiroir-caisse. La faveur divine est une récompense pour bonne conduite, alors que le malheur atteint ceux qui font le mal. Job a déjà tenu ce discours, mais il a également prétendu le contraire en soutenant que les impies prospèrent tout autant que les hommes justes. Il faut comprendre que cette contradiction exprime son désarroi face à sa situation tragique qui le dépasse et qu'il lui est impossible de comprendre. Je finis le chapitre 29 avec la deuxième rangée de pétales de mon illustration. L'honneur qu'on lui rendait. Job revient avec complaisance à la description de la confiance qu'on avait en lui. « Alors on m'écoutait, attendant mon avis, et l'on faisait silence pour voir mon conseil. Lorsque j'avais parlé, on ne discutait pas. Ma parole sur eux se répandait avec douceur, et ils comptaient sur moi comme on attend la pluie. Ils ouvraient grand la bouche, comme pour cueillir les ondées du printemps. » Quand je leur souriais, ils n'osaient pas y croire. On ne pouvait éteindre l'éclat de mon visage. C'est moi qui choisissais la voie qu'ils devaient suivre. Je siégeais à leur tête, je trônais comme un roi au milieu de ses troupes, comme un consolateur pour les gens affligés. Job chapitre 29, les versets 21 à 25. Dans les pays arides, l'eau est évidemment une bénédiction. Tout comme la terre fendue par la sécheresse semble s'entr'ouvrir pour recevoir la pluie du printemps, la dernière avant la moisson, ainsi on attendait la bouche entr'ouverte pour mieux entendre ce que Job allait dire. On désirait connaître son opinion sur les principales questions en jeu, et une fois qu'il avait parlé, le débat était clos. Son discours était comme une pluie rafraîchissante pour des esprits découragés. Son sourire même faisait l'objet d'un tonique sur les irrésolus. Job était, et est toujours un homme tout à fait exceptionnel. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est devenu la cible de Satan. Dans cette vie, la souffrance peut avoir bien des causes différentes, mais il est surtout bon de savoir que dans l'éternité à venir, il n'y en aura plus.